Et si on reparlait un peu de cette école Boulle, quand tu es sorti en 1929, qui est peut-être le premier maillon de la chaîne qui va t'amener jusqu'au centre des métiers d'art quelques 50 ou 60 ans plus tard.
Il est certain que si je n'avais pas eu cette formation, je n'aurais pas eu l'idée, beaucoup plus tard, de créer ce centre des métiers d'art. C'est bien évident, j'en aurais été totalement incapable. Je fais de mon ignorance, tout simplement. Il est certain qu'à Boulle, j'ai eu une formation assez complète pour ensuite, comment dirais-je, m'engager pour la vie dans une activité artistique, c'est certain.
Vos professeurs, à ce moment-là, vous disiez, nous formons l'élite des artisans français. Oui, à l'école.
Absolument. Puisque nous avons eu une fois, dans le préau de l'école, une exposition des œuvres des concours du meilleur artisan de France. Il s'agissait de sculptures sur bois.
Mais est-ce que l'école Boulle est rattachée au compagnonnage français, au compagnon du Tour de France, par exemple ?
Non, pas du tout. Non, c'était une création moderne. D'ailleurs, depuis, il y a eu le livre du centenaire de l'école Boulle, que j'ai dans ma bibliothèque, qui rappelle la genèse de cette affaire. C'est-à-dire que ça a commencé en environ 1880. C'est la ville de Paris qui l'a créé. Je pense sur l'initiative des artisans du Faubourg Saint-Antoine, des ébénistes de Saint-Antoine. C'était à l'origine une école d'ébénisterie, d'où son nom.
Boulle.
Oui, André Boulle, l'ébéniste du roi Louis XIV.
Et toi, tu es sorti sur la gravure
sur acier, oui. Sur acier. Parce qu'au cours des années, ils ont commencé par être une école d'ébénisterie, puis l'ébénisterie. Les armoires, les lits, il y avait aussi les sièges, les tables, les sièges et tout ça. Et par conséquent, un deuxième atelier s'est formé, celui de menuisier en siège. Mais qui disait menuisier en siège, disait aussi tapisserie en siège, parce que les meubles d'époque étaient constitués d'une armature et aussi de rembourrage au dossier, au siège, qui nécessitait d'autres techniques que celles du travail du bois. Par conséquent, il y a eu tapissier en siège, ensuite tapissier en tenture, n'est-ce pas, on très bien. Et puis, on s'est aperçu que les meubles de style, parce que c'était toujours le but principal, former des artisans capables de reproduire des meubles des grands styles français, 17e, 18e siècle, surtout, n'est-ce pas, même Louis XVI, Empire, etc. On s'est aperçu que tous ces meubles s'adornaient de ciselure en bronze doré. Alors, on a commencé à créer un atelier de ciselure. Et les techniques du bois ont passé aux techniques du métal. N'est-ce pas ? Bon, puis de ciselure de fil en aiguille, on en est passé à la gravure en bijoux, la gravure sur acier, etc., etc., le tournage artistique sur métaux, etc., n'est-ce pas ? Donc, il y a eu, à partir d'un certain moment, deux sections, la section du meuble et la section du métal. Et je suis entré donc dans la section du métal, en atelier de gravure sur acier.
Mais là, vous receviez quand même une formation générale sur les
arts. On avait tous la même formation générale au point de vue culturel, artistique général. Nous avions 13 cours théoriques différents.
Ah. Mais cette école n'était pas.
Il y avait histoire de l'art et même des cours techniques. N'avait rien à voir spécialement avec l'art, tel que le dessin industriel.
Donc il y a quand même une formation pour les métiers contemporains de l'époque, pour préparer.
Oui, bien sûr. Parce que, d'ailleurs, nous avions un cours de composition décorative qui était dominé par de grands décorateurs de l'époque. J'avais Baclès, ensuite nous avons eu Sougnon, je crois, je me rappelle plus très bien de son nom. Des gens qui étaient célèbres à l'époque de l'expo des arts décoratifs. Et ça se situe à ce moment-là, moi. Les arts déco, c'était en 25, puis je suis entré en 26.
Mais c'était détaché des arts déco.
Non, je parle de l'exposition des arts décoratifs de 1925.
Et tu as eu des formateurs qui t'ont impressionné, qui ont laissé une trace importante dans ta.
Bon, on me rappelle le nom de quelques-uns, mais pas impressionné. Moins impressionné en ce sens qu'ils avaient une influence sur leurs élèves, bien entendu, n'est-ce pas? On admirait ce qu'ils faisaient. C'est sûr, on avait du respect pour eux. Et on suivait leur enseignement, tout simplement.
Mais pas quelqu'un qui t'a marqué sur le plan à la fois humain, sur le plan de la transmission du savoir
Ah ben, il y avait le directeur de l'école. Il s'appelait, je crois, André Fréchet. Il était particulièrement impressionnant. C'est un petit bonhomme qui faisait, je sais pas, 1m60. Il avait déjà plus de 60 ans. Puis quand il venait nous rejoindre au cours de culture physique dans le gymnase, il faisait le grand soleil à la barre. Alors là, évidemment, il nous impressionnait. Là,
il
vraiment.
Il a 60 ans, le grand soleil à 60 ans, c'est quelque chose.
Il grimpait à la corde comme rien du tout. Nous restait au bout, mais lui, il grimpait en l'air.
Ça, c'est pas courant.
Oui. Et c'était un grand décorateur.
Mais à cette époque de l'école Boulle, tu n'as jamais entendu parler du mot de Tahiti, du nom de Tahiti.
Une fois, si. Un ancien élève, quelquefois des anciens élèves de l'école, venaient rendre visite à leur ancienne école. Ils en profitaient pour apporter les éléments d'une conférence sur un sujet. Nous avons eu par exemple André Bauger, qui était un chanteur d'opéra, qui était tout un chanteur d'opéra, et qui était un ancien élève sculpteur de l'école Boulle. Bon, très bien. Ça menait à tout. Hein. Et un beau jour, j'ai oublié le nom de celui-là. On est tombé sur un ancêtre de connaissance du monde, quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord.
Un vague explorateur de l'époque, n'est-ce pas, qui avait fait le tour du monde, et puis il passait pas des diapos, mais il avait un appareil de projection qui reproduisait des cartes postales. Et il était passé par Tahiti. Il nous avait raconté ce qu'il avait vu là. En passant, et d'après lui, c'était le paradis terrestre, c'était ceci, c'était cela, des gens qui n'avaient pas de problème, et tout ce qu'on pouvait raconter à l'époque sur le paradis Tahiti.
C'est toujours le même mythe, quoi. Déjà le même mythe.
Ah ben, depuis Bougainville. Hein, bon. Alors, c'est la première fois, mais je n'avais pas attaché beaucoup d'importance à ça. Non, ce qui m'a amené à cela, c'est le fait que, à mon entrée en deuxième année, j'avais pas encore 15 ans, j'ai fait une. On appelait à l'époque une jaunisse, c'est-à-dire une hépatite virale. J'ai failli en mourir. Et quand j'ai été un peu rétabli, un habitant de notre immeuble, qui faisait à l'époque du naturisme, a dit à ma mère qu'il existait une méthode une école médicale, qui soignait ce genre de maladie sans médicaments et qui obtenait d'excellents résultats. C'était l'époque de l'Institut naturiste et du docteur Durville. Et effectivement, ils m'ont fait abandonner le sulfate de soude et tous les médicaments qu'on me faisait avaler, et ils m'ont vraiment sorti de mon affaire. Régime alimentaire, plutôt végétarien, massage, hydrothérapie, héliothérapie, culture physique, sport. J'en suis sorti comme ça, tout simplement.
Tout ce qu'on retrouve à l'époque moderne, à l'heure actuelle, quasiment.
Les naturistes de l'époque faisaient scandale. C'était les écologistes de l'époque, tout simplement. J'estimais qu'on était soumis aux lois de la nature et que dès l'instant qu'on recommençait à obéir fidèlement aux lois de la nature, la nature se chargeait du reste. C'est tout. Bon. Alors, ça m'a introduit dans un milieu de jeunes, particulièrement passionnés de contact avec la nature. Nous allions tous les week-ends à Vilaine, sur Seine, dans l'île de Médan, là, l'île de Zola, je crois, c'est une maison, il me semble bien. Si. Et on faisait de tout, on faisait du canotage sur la Seine, on faisait de la natation, ça j'ai appris à nager. Puis il y avait un stade, il y avait un terrain de camping, on installait la tente, elle y restait d'ailleurs toute la semaine pendant tout l'été, et on revenait en copain. Le samedi, on passait la nuit, le samedi au dimanche, on faisait du sport et tout ça. Et bon, ben, je revivais tout simplement. Et alors là, on parlait de possibilités de vie plus complètes dans la nature. Et un jour, un copain est arrivé et c'était un gars qui travaillait sur les bateaux des messageries maritimes. Et pendant une période de sac à terre, il était venu là et il nous a parlé des îles Marquises où il avait vécu un mois, je ne sais pas dans quelle vallée. Il avait élargi un petit peu son escale, j'imagine. Et alors, il nous racontait des parties de pêche, hein, des pirogues, des autres trucs, enfin, faire rêver, quoi. Surtout des gars qui étaient désireux de contact plus prolongé avec la nature que les week-ends. Parce que tout le monde rêvait à ça. Et alors, bon, ça a commencé à m'orienter. Et puis, là, j'étais déjà... Au moment où il nous a parlé de ça, j'étais déjà sorti de l'école. Hein,
je travaillais. Plus, ouais. C'était après 1929.
Et alors, j'ai travaillé pendant un an et demi, puis boum, la crise de...
L'état
économique de 29 s'est répercuté sur la France, avec un petit peu de retard, et on a licencié du personnel.
Vous travaillez où, là?
Moi, je travaillais dans un atelier de gravure sur acier, bien entendu. Mais j'étais le dernier recruté, j'étais le premier mis à la porte, évidemment. Et puis alors, pendant plus d'un an, j'ai cherché partout du boulot. Pourtant, ma formation était polyvalente. Hein. Je pouvais aussi bien travailler chez un décorateur, chez un architecte, chez un publicitaire pour composer des affiches et des tas de trucs. Rien à foutre. Il y avait des
queues.
Il y avait des queues, tout ça. Ah, on recevait gentiment tout le monde. Il y avait des petits malins. Par exemple, je me rappelle d'une agence de publicité qui donnait à tout le monde un petit boulot à faire. Hein. Comment dirais-je, à titre d'examen, en quelque sorte. Hein. Bon, moi, je me rappelle qu'il m'avait demandé de faire une affiche pour un fabricant de machines agricoles, et j'avais à enthousiasmer le public sur les mérites d'une machine à couper les betteraves. Je veux bien, hein. Je ne me rappelle plus quel navet j'ai pu prendre sur un sujet aussi emballant, enthousiasmant que le coupe betterave. Toujours est-il que je n'ai jamais revu mon projet, on ne me l'a pas rendu, mais on m'a dit gentiment, comme je suis allé aux nouvelles, nous avons trouvé quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. Il y avait des malins comme ça qui faisaient travailler des gars gratuitement. Déjà, alors c'était démoralisant. J'exploitais la misère.
Tu étais jeune, là, encore, à l'époque. Tu avais moins de 18 ans.
À l'époque, j'avais 18 ans. Ouais. Et alors, parmi mes copains de camp naturiste, j'avais un gars très proche de moi, un fils d'émigré juif russe, particulièrement intéressant, en ce sens qu'il avait une vie intellectuelle très très intense. C'était un universitaire d'ailleurs, et il avait fait des séjours en Angleterre, il parlait anglais couramment. Il m'a emmené bien souvent le soir à la bibliothèque Sainte-Geneviève, près du Panthéon, tout ça. Et là, on lisait des bouquins de voyage, bien entendu, parce que tous les deux, on rêvait de sortir de ces deux.
De cette Europe, de cette France.
De ce marasme. Lorsque pendant plusieurs années, on n'est pas formé, on t'a dit que tu viendrais un artisan d'élite, que tu ferais honneur à ton pays, etc., etc. Tu serais parmi ceux qui participeraient au renom de la France dans le monde entier. Quand on est jeune, on croit à toutes ces valeurs, à tous ces trucs. Ouais, on a besoin d'ailleurs de ça, n'est-ce pas? Et puis, on te coupe les moteurs au moment du décollage, comme c'est le cas, n'est-ce pas? On aboutit à un crash complet.
Ah oui, ça c'est la feuille morte, là.
Sans voir la sortie du tunnel. C'était le noir complet. Après plus d'un an de démarche, de débat, de tout, pour arriver à s'en sortir, trouver ça, non, c'est pas ça. Non. On était un certain nombre, un dizaine, qui pensions aux tropiques. Pourquoi les tropiques? Parce que, bon, c'était des pays où la survie était plus facile qu'en Europe, que dans un pays froid. On n'avait pas besoin d'autant d'argent parce que pas besoin de chauffage d'hiver, pas besoin de vêtements chauds, etc., etc. On pouvait vivre pratiquement nu ou en tenue légère, n'est-ce pas? Et puis, on pouvait mener une vie très proche de la nature aussi, en même temps. Bon, alors, on parle des tropiques. Oui, mais alors, à l'époque, on parlait des fièvres africaines ou asiatiques ou tout ça. Bon, ouais. Déjà ça refroidissait. On cherchait donc des pays tropicaux, mais salubres. aussi salubre que possible sous les tropiques. Et il n'y a pas, 36 pays de ce genre, il n'y a que des îles. Les climats océaniques sont beaucoup plus sains que les climats continentaux sous les tropiques. Donc, on pensait aux îles. Alors, les Antilles, la Réunion, bien entendu, alors, des îles où on parle français. N'est-ce pas? Bon, on n'est pas encore se poser un problème supplémentaire.
L'apprentissage de la langue anglaise. Bon. Mais si je comprends bien, donc tu es quelqu'un quand même de jeune, mais qui ne tombe pas dans les bras des sirènes sur le mythe de la facilité, les vainés et tout, c'est plutôt la démarche qui vient de cette école de naturisme.
Cette association naturiste.
Cette association naturiste qui va vous guider, vous canaliser.
J'ai toujours béni cette hépatite virale qui m'a fait virer du bon côté. Eh oui. Sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenu. Je ne sais pas. Je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue, en tout cas, c'est ça.
Et là, vous habitiez avec ta maman dans quel quartier de Paris, non?
Quartier du Gros Caillou, dans le 7e arrondissement.
Du Gros Caillou.
Oui.
7e arrondissement, c'est de
quel
côté? C'est
au pied de la Tour Eiffel.
Au pied de la Tour Eiffel.
Au pied de la Tour Eiffel. Oh, on ne roulait pas sur l'or, elle était gardienne d'immeuble, tout simplement. Mm-hmm. Et j'avais perdu mon père en 21, déjà.
Et qu'est-ce qu'il faisait ton père, comme métier?
Oh, c'était... Mes parents étaient des gens simples. Ouais. Hein. Mon père était un paysan. Il était né à Paris, mais enfin, c'était un paysan. Hein. Et il était savoyard, enfin, je disais, savoyard. Il était natif du département de l'Ain. Alors, ça fait partie, théoriquement, de la Bourgogne. Mais l'Ain au bord du Rhône, et de l'autre côté du Rhône, c'était la Savoie. Il voulait pas qu'on dise qu'il était bourguignon. Il était savoyard. Bon, enfin, je veux bien. En tout cas, les Bouviers, il y en a plein dans la vallée du Rhône.
Hein. C'est votre terroir d'origine.
Hein?
C'est le terroir d'origine
de mon père.
De ton père.
Ma mère, par contre, elle était d'origine picarde. Une famille de la Croix. Je ne sais pas si on est apparenté ou non au peintre de la Croix, mais en tout cas, le profil de ma mère et celui d'Eugène de la Croix,
c'est les mêmes.
Les mêmes, exactement. J'en ai gardé une espèce de nez un peu en trompette, d'ailleurs. Même Jean-Pierre a un peu ce profil un peu cassé. Bon.
Et ce projet de venir sur les tropiques s'est fait très rapidement.
Ben, on a cogité là-dessus. Quand on a 18 ans, on est rapide généralement. Hein. À mon âge, j'aurais réfléchi plus longtemps. Ouais. Alors, ma mère péniblement avait fait quelques petites économies. Et un jour, on a discuté ensemble. J'ai dit, écoute, si ça continue comme ça, pendant combien d'années encore, après une brève période où vraiment j'ai gagné l'argent de la famille, pendant combien de temps? Allez!
Non, mais c'est...
Pendant combien de temps encore? Pendant combien de temps encore est-ce que je vais être à ta charge? Même avec un tout petit salaire, ces économies fondées, et dans quelques années on va s'entourer à zéro, complètement, sans espoir. Moi je ne voyais pas d'espoir à l'horizon. Alors je lui ai parlé de nos projets naturistes avec les copains, tout ça. Elle était effrayée, on savait de soi. Mmh. Alors elle ne voulait pas entendre parler, tout ça. Et puis petit à petit, je suis parvenu à la convaincre que tout était d'une chance à tenter dans ce sens-là. Que d'autre part, elle, qui tous les hivers avait été perclue de rhumatisme, elle avait des chances de s'en sortir ici dans un climat plus chaud, et ça, c'est ce qui est arrivé, effectivement. Elle n'a plus eu de rhumatisme, à partir du moment de crise, tout au moins, à partir du moment où elle était ici. Alors, je lui ai dressé, un tableau assez idyllique, évidemment. C'est pas toujours de très bonne foi, à notre soi. Il s'agissait de convaincre. Hein. Finalement, elle acceptait. Quand ça s'est su dans l'immeuble, peuplé d'officiers de marine, d'anciens coloniaux, tout ça, parmi eux, il y en avait un, qui était un colonial à la retraite, un ancien fonctionnaire du ministère des Finances, qui avait servi en Afrique du Nord, marié à une Tunisienne, qui était cousin du général Giraud, qui a eu son ordre de gloire avec De Gaulle, la libération d'Algérie. Il est venu nous voir et dit, écoute, Henri, bon, tu vas aller sous les tropiques. Il ne faut pas y aller pour rien. Quand on va aux colonies, il faut gagner de l'argent. Quoi? Commencer à me dire, Qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là?
C'était loin du naturisme.
Ah oui, absolument. Lui, il ne pouvait pas imaginer qu'on puisse aller dans les colonies, comme on disait à l'époque, pour simplement y vivre. Y vivre, tout simplement, avoir une vie humaine, plus humaine qu'en France. C'est tout, rien de plus que ça, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas comprendre ça. Alors, il m'a traîné par l'oreille au ministère des colonies, Rolodino. On a trouvé dans un vieux bureau, comme on en trouve encore il y a quelques années, quand j'allais en mission en France, un colonial qui attendait la retraite, qui était en train de moisir dans un vieux bureau sans air, sans lumière, sans rien du tout, n'est-ce pas? Particulièrement aigri. Quand il a appris qu'on lui a amené un galopin qui voulait partir à Tahiti, il y a emmené sa mère, âgée de 55 ans, mais c'était quelque chose d'affreux, n'est-ce pas? Je me suis fait incendier, mais d'une façon affreuse. On m'a dit, c'est un suicide. Comme ça ne marchait pas avec le suicide, mais c'est même un parricide. Vous allez mourir là-bas. Mais enfin, de quoi? On y meurt là-bas, oui, mais et les gens qui y habitent, ils meurent tous alors? Hein, c'est tellement affreux, ce truc-là. Oui, mais enfin, de quoi allez-vous vivre? Et les autres, de quoi ils vivent là-bas? Vous n'allez tout de même pas manger des bananes. Mais je dis, on en achète chez le fruitier ici, des bananes. C'est pas empoisonné, tant que je sache. Enfin, vraiment, le dialogue de sourd. Mais le gars, mais écoutez, j'y suis allé à Tahiti. Hein. Un estomac européen ne peut vraiment pas digérer leurs bananes, leurs arbres à pain, leurs poissons, ces trucs-là, c'est dégueulasse. Il faut... Nous avons besoin d'une alimentation européenne, nous autres, hein, même là-bas. Et ça coûte cher. Et vous n'aurez
pas de situation, mais je ne suis pas là-bas pour revenir à l'européenne, moi. Qu'est-ce que vous voulez là-bas? Tout simplement, pas comme vous ici, tout le monde. Et vous vivez dans votre vieux bureau, là, hein? C'est tout ce que vous voulez. Vous avez comme pain de vie. Tout de même, entre les plantes indigènes et les plantes acclimatées, il y a quand même des ressources. Et je sais que
les légumes européens, ils poussent en toute saison. Que les poules, ils pondent des œufs, qu'il y a des poissons dans le lagon. L'arbre à pain, ben, je verrai le goût en arrivant.
De toute façon. Donc, c'est sur le thème de la qualité de la vie, en fait.
C'était tout. C'était la qualité. Alors, il a essayé de. Il dit, écoute Henri. Avec mon cousin, le général Giraud, je veux te faire avoir une place dans l'administration, n'importe où. Afrique du Nord, on a quelque chose à Casablanca. Et là, tu vas gagner de l'argent. Mais je m'en fous. Casablanca, ça ne me dit rien. J'aime pas le désert, j'aime pas ces trucs-là. Bon, ça ne me dit rien. Il y a trop de soleil et pas assez d'ombre. Mais alors, en Afrique noire, il dit, mais non. Je ne veux pas aller là-bas pour exploiter des gens et m'enrichir. C'est pas ça mon but. J'ai d'autres buts dans la vie. On a appris que des buts les plus enthousiasmants dans la vie, c'était la recherche de la beauté et la création de la beauté. Ouais. De vivre dans un beau pays avec des gens agréables à regarder, premièrement, et j'ai pas l'intention d'aller là-bas pour les exploiter et gagner de l'argent sur leur dos, pour eux qui veulent bien se pousser un tout petit peu. Que je puisse mettre ma femme, mon derrière par terre, au soleil, au milieu d'eux, vivre au milieu d'eux, j'en demande pas plus.
Ça, c'est des idées qui ne devaient pas tellement être répandues à l'époque.
Ah non, j'étais révolutionnaire en bloc. Mon copain aussi, d'ailleurs.
Et c'est vous deux avec...
Il devait venir avec moi. Ah, oui. Et lui, il était riche. Ses parents étaient marchands de tissus dans le marais. Il faut voir du temps, ça. Hein. Et il avait des idées très avancées, lui aussi. Et alors, il devait financer. Et je suis venu le premier, parce qu'il n'était pas prêt à partir en même temps que moi. Puis après, comme il est un peu plus âgé que moi, il s'est fait coincer par son service militaire là-bas. Bon, il a voulu aller quand même dans un pays chaud, et il a fait son service en Tunisie. Il m'a envoyé des cartes postales. Il avait toujours l'intention de venir, mais il était un peu négligent, ça a traîné, puis la guerre est arrivée. Comme il était juif.
Ouais.
Après la guerre, j'ai écrit, plus de nouvelles.
T'as jamais eu de nouvelles?
La famille avait disparu. Comme c'était un gars qui, contrairement à ce qu'on dit des juifs, était particulièrement désintéressé, généreux et tout, hein, et bagarreur en diable en plus, quand c'était pour ses idées, ce gars-là, s'il n'a pas été tué dans la campagne de France, il a fait certainement de la résistance. Il s'est fait dégommer, ou il est mort dans un camp de concentration.
Il n'a jamais pu retrouver la fin de sa vie. Et donc vous êtes partis tous les deux, peut-être ta maman et toi, oui. sur le Tahitien, le Calédonien de l'époque.
Non, c'était pas. C'était le ville de Strasbourg.
Le ville de Strasbourg. Mm-hmm. Mais Panama était déjà.
Ah oui, bien sûr. Panama, bien sûr. Là, c'est 1913.
Et sur le bateau, est-ce que vous avez rencontré des gens parce que déjà, vous deviez faire contraste sur le bateau, non?
Ben, oui, enfin, si on veut. C'était un cargo mixte.
Ouais.
Pas un paquebot, un cargo mixte. Il y avait quelques cabines seulement. Hein. Bon, il y avait là-dessus, comme passager, une Tahitienne qui rentrait ici avec sa fille, Tenihau Swiri, qui a déjà créé le premier, la Fariette, Marina, et qui l'a recréée quand elle est rentrée. Elle venait passer quelques années en France, elle était mariée avec un monsieur Swiri. Sa fille, c'était Franzette, qui a épousé plus tard Bouchon-Villiers. Bon, elle avait 12 ans, la Franzette. C'était les plus sympathiques qu'eux autres. Il y avait un gendarme et sa femme et ses deux gamines.
Bon, qui venaient en poste ou qui retournaient.
Venaient en poste ici, un nommé Dumas. Et puis il y avait un couple de vieux coloniaux qui avaient servi longtemps en Nouvelle-Calédonie comme directeur du bagne, plus sympathique. Et puis un jeune étudiant. Caldoche, qui rentrait de France, il avait eu son bac, tout aussi antipathique d'ailleurs que le vieux gardien de prison. D'ailleurs, la Tahitienne tout de suite nous avait prévenu, faites attention aux Calédoniens, ce sont des gens méchants, ils ne nous aiment pas. Déjà à l'époque, les Caldoches ne pouvaient pas piffrer les Polynésiens. C'était viscéral chez eux, paraît-il. D'ailleurs, ils étaient en appart. On les laissait tranquilles, d'ailleurs. Bon, puis alors, il y avait un jeune, un peu plus âgé que moi, nommé Saunier, qui avait 23 ans, je crois, il avait fini son service. Et il venait faire un tour ici, en touriste, tout simplement, comme ça. Il est resté un an, puis il est reparti. Mais lui était sympa, alors on discutait avec le Tahitien, sa môme, Saunier. Et puis, il y avait un steward, qui s'appelait Marcel Pain, qui plus tard a été chef de Bourbon. Chef du district de Popo pendant longtemps, représentant Moréa à l'Assemblée consultative aussi. À l'époque, il faisait tantôt la ligne d'Extrême-Orient, tantôt celle-ci. Et alors, lui, il était naturiste, lui au-dessus, comme par hasard, et on prenait des soleils sur le Galliard d'avant tous les jours, ensemble, en discutant de ses voyages. Il me disait, après ce voyage-ci, je fais un voyage. Jusqu'à Tokyo, la ligne d'Extrême-Orient, parce que là, ça paye, il y a beaucoup de pourboire. Je me fais un petit bagot, et après mon retour à Marseille, je rembarque sur cette ligne et je me fais débarquer à Tahiti. Et après, à ce moment-là, je m'installe. Moi, j'ai déjà repéré un fait point à Montréal, l'île en face de Tahiti, et c'est là que je m'installerai.
C'était important.
Ce qu'il a fait.
Donc, il y a eu très très peu de passagers, en fin de compte.
Oui.
Et ce...
Oui, il n'y avait même pas une dizaine de cabines.
Ouais.
C'était surtout un cargo, avant tout.
Et donc, vous étiez deux à prendre le soleil à cette époque.
Oui, parce que ma mère est encore chaude pour le bon soleil, c'est un chômage. Elle se protège plutôt du soleil.
Et l'arrivée à Papeete, là, ça c'est... Donc, enfin, vous n'avez pas fait d'escale au Marquis.
Non.
c'est direct non, Panama non.
Généralement, ils faisaient escale au Marquis en retournant pour ramasser le copra.
Ah, d'accord.
Ils faisaient escale à Outouroi pour le copra des îles Soudan, à Papeete, pour le. Ici, les Tourmoutou, et au Marquis pour le.